c'est la nuit complète avec une foule comme on peut pas imaginer à Paris, hein, même à Paris. C'est à tel point que si on n'est pas dans le bon sens du trottoir, on peut pas faire contresens à la foule, hein, c'est pas possible. Il y a trop de flux. Donc moi j'arrive là en me disant bah là c'est foutu, hein, je vais pas pouvoir trouver ma route là-dedans. Et en fait il y a quelqu'un qui m'attend avec un vélo et donc il m'ouvre la voie et il est sur son vélo donc il joue de la sonnette pour écarter la foule et bah moi je suis juste derrière lui et on avance comme ça. Donc c'est assez original. Je me sens soulagé en même temps après avoir été pendant des heures dans la nature. Être au milieu d'une foule aussi compacte, ça fait un drôle de choc. Hein.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Dépaysement garanti avec cet épisode consacré à la Dasong 108, une course de 108 km dans la province de Hangzhou en Chine qui réunit seulement 250 participants. La légende vivante du trail, Antoine Guillon, va partager avec nous son expérience sur cette course sur laquelle il va connaître des crampes foudroyantes. Pris en charge par des bénévoles et d'autres coureurs particulièrement bienveillants, Antoine va trouver la ressource nécessaire pour poursuivre sa course après près d'une heure d'arrêt. Il ne le regrettera pas, tant le spectacle qui va ensuite s'offrir à lui sera inattendu et sa performance... Non mais attendez, vous pensiez vraiment que j'allais vous raconter tout l'épisode dans l'introduction? Vous allez découvrir la suite dans quelques minutes, franchement ça vaut le coup. J'ai passé un moment très agréable à échanger avec Antoine, dont la gentillesse et l'humilité n'ont d'égal que l'incroyable niveau de performance dont il fait preuve depuis une vingtaine d'années. Mais je ne vous en dis pas plus, Antoine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, China Down. Bonjour Antoine, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, comment vas-tu?
Bonjour Guillaume, merci, ça va très bien, je suis très content de pouvoir participer à ton podcast. C'est parti, on va voyager en Chine je crois aujourd'hui.
Exactement, ça va être une bien belle course épique que tu vas nous faire vivre, je suis moi aussi très heureux en tout cas qu'on puisse échanger ensemble. Antoine, on va évoquer ton parcours sportif bien évidemment, mais avant de l'évoquer plus en détail, est-ce que tu pourrais te présenter de façon peut-être plus générale avec les nombreuses casquettes que tu as sur la tête, parce qu'il y en a un certain nombre au-delà de la seule course à pied, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui est Antoine Guillon?
Eh bien, ça remonte à 1970.
Très bon millésime.
Voilà, je suis né en 1970 dans les Yvelines, donc loin de l'Hérault où j'habite aujourd'hui. Donc j'ai grandi là-bas, pas très à l'aise parce que j'avoue que la foule me gênait déjà quand j'étais gamin et j'étais pas non plus très assidu dans l'école. Ça m'ennuyait. En fait, moi j'aimais l'espace, courir, aller dans l'eau, m'amuser, aller dans la forêt et c'était ça mon tempérament déjà gamin. Et donc il a fallu que je patiente jusqu'à peu près l'âge de 20 ans, faire mes études, me spécialiser dans l'espace vert d'ailleurs. Dans l'élagage exactement, pour ensuite partir au soleil là dans le sud de la France, dans l'Hérault, où je me suis posé. J'ai toujours fait du sport quand j'étais gamin, on va dire, j'ai toujours fait du sport, couru. J'aimais beaucoup ça. C'était un moyen pour moi de m'évader, de m'échapper et puis de me sentir bien. C'était à peu près le seul moment où je me sentais réellement bien, quoi, bien dans ma peau.
Tu vivais ces moments-là tout seul ou quelqu'un t'a éveillé à ça? Est-ce que c'était une pratique que tu partageais avec des copains, avec la famille? Ou est-ce que c'est aussi un moment d'introspection et d'évasion que tu vivais pour toi?
Alors c'était d'abord assez seul puisque c'était mes escapades. Quand j'avais 12 ans, mon père s'est mis à courir. Et il voulait pas le faire seul, donc j'ai couru avec lui pendant à peu près 2 ans. On courait sur route, et puis après nos niveaux n'étant plus les mêmes, j'ai terminé par courir dans mon coin, et c'était très bien. Hein. Moi, j'aime l'introspection. Donc ça me correspondait très bien. Donc j'ai beaucoup couru sur route jusqu'à l'âge de 23 ans. Et ensuite, bah, c'est dans les Raux, quand on a déménagé, mon épouse et mes deux enfants et moi, que j'ai découvert le trail. C'est là que je me suis réellement mis à courir sur les sentiers. Et j'ai découvert une première épreuve qui était la course des Templiers en 2002. Et ça a été un déclic. C'est à partir de là que je me suis senti vraiment bien en accord avec moi-même, avec la course à pied. Ça m'a donné un vrai but sportif réellement. C'est même au-delà du sport. Je pense que le trail, ça correspondait d'un coup à tout ce que j'appréciais. Ça a vraiment donné un sens à ma pratique. Et puis après, bah, je me suis découvert aussi des facultés sur la longue distance. Et puis je me suis engouffré là dans cette brèche et j'ai fait mon chemin. Et après, je suis devenu presque professionnel, on va dire, dans cette discipline à partir de 2010. Et puis ça m'a permis de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup de monde, d'améliorer aussi notre qualité de vie en apprenant à bien m'alimenter, en prenant soin de mon corps aussi. Et c'est devenu, on va dire, un art de vivre.
Donc bien plus qu'une discipline sportive, c'est un état d'esprit.
Oh oui, bien au-delà d'une discipline sportive, ouais, bien au-delà.
Est-ce que tu as compris très vite que ton corps et ton esprit auraient envie de t'emmener sur des efforts longs et très longs ? Est-ce que ça a été assez immédiat ou est-ce que toi, tu ne savais pas trop où tu mettais les pieds et puis petit à petit, tu as eu envie d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, explorer d'autres terrains ? Comment tout ça s'est construit ?
Ça s'est construit en fait tout gamin parce que c'était mon caractère. Je voulais toujours aller plus loin. Je pratiquais déjà l'apnée quand j'étais enfant, dans la baignoire. Quand j'avais 4-5 ans, si mes parents voulaient avoir la paix, ils me faisaient retenir la respiration, mettre la tête sous l'eau.
Ils venaient chercher 20 minutes plus tard.
Voilà, ils étaient tranquilles à un moment. Donc j'ai gardé cette habitude. Et puis rester une minute sous l'eau quand j'étais tout petit, ça c'était amusant, mais évidemment le but c'était d'atteindre 2 minutes et puis 3 et puis 4 et 5 et puis je me suis pris au jeu jusqu'à faire plus que ça. Et ça a toujours été comme ça enfant, il fallait que je fasse plus si mon père me donnait à faire sur un petit chantier creuser un trou, c'était pas un trou sur une heure, il fallait que je creuse 2 jours, 3 jours pour faire un immense trou pour rentrer dedans. Ça a toujours été comme ça en fait. Et la longue distance, c'est quelque chose auquel j'aspirais vraiment quand j'étais déjà gamin à 12-13 ans. Je voulais aller loin, mais par contre j'étais freiné parce que mon père me disait non, tu vas te blesser, c'est pas bien. C'était quand même, faut pas oublier que c'était en 82-83. À cette époque-là, un marathon c'était déjà le bout du monde, hein. Donc c'est pas comme aujourd'hui les longues distances qui sont banalisées. À l'époque, non, il y avait des règles, on les dépassait pas. Et moi, je ne rêvais que d'une chose, c'était de faire des grandes traversées.
Donc si tu avais pu, t'aurais passé tes journées entières dehors à courir.
Courir, faire du vélo, mais j'avais déjà cette chance, hein. J'habitais dans les Yvelines, tout près de la forêt, et je passais beaucoup de temps là-bas, beaucoup de temps. Alors j'y partais en vélo, j'y partais à pied, et j'avais cette liberté, mes parents me laissaient relativement libre, et je pouvais partir quasiment autant de temps que je voulais dans les bois, donc je m'en privais pas, ouais.
Tu nous as parlé donc des Templiers, ton expérience de course. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la compétition justement et les premières fois où tu t'es éveillé à cette espèce d'adrénaline supplémentaire que peut comporter la course et qu'implique une course, quel effet ça a eu sur toi ? Est-ce que tu as trouvé l'exercice très différent d'une pratique plus loisir, même s'il y avait très probablement un niveau déjà avéré ? Mais quel était le supplément d'âme que tu as trouvé dans la compétition ou pas d'ailleurs ? Est-ce que tu le vivais comme une sortie longue mais avec un dossard sur le ventre ? Ou est-ce que ça, il y avait plein de choses qui étaient nouvelles et ça t'a ouvert à plein d'autres enjeux, en fait, cette dimension compétitive ?
Alors la dimension compétitive, on va dire des Templiers, parce que sinon, auparavant, j'en avais fait certainement une centaine, hein, sur route, où j'appréciais le dépassement, aller vraiment titiller les limites, essayer de faire toujours plus, toujours mieux. Le trail, c'était complètement différent parce que je me trouvais face à un terrain très inégal. Donc là, on pouvait oublier le chrono, hein, je le voyais bien, parce que à l'entraînement, je m'étais quand même préparé pour cette épreuve, à courir sur les sentiers, à marcher aussi en côte, chose qu'on ne fait jamais quand on court sur route. Donc il y avait une grande part d'inconnu, et ça, c'était très excitant de partir en sachant que j'étais bien préparé. Je savais très bien que j'étais capable de courir longtemps, d'aller vite, mais par contre, me retrouver quasiment à zéro, parce que j'étais sur une ligne de départ avec 70 km à faire, une distance qui faisait 30 km de plus qu'un marathon. Et donc, je me retrouvais tout petit, sans vraiment repère. Donc quand je suis parti, j'y suis allé franco, hein, et j'ai pris énormément de plaisir à courir déjà dans la nature. L'ambiance était très décontracte, c'était vraiment différent de ce qu'il pouvait y avoir sur route. Les gens parlaient, discutaient, on posait des questions sur comment on s'est préparé, est-ce que tu as fait telle course, t'as pas visité. Voilà, le mot était très différent, c'était comment dire, t'as pas vu, t'as pas découvert, alors que sur la route, on dit t'as fait quel temps sur tel semi, t'as fait quel temps sur tel semi. Donc ça, c'était déjà une ambiance très très différente, beaucoup plus cool, qui permettait d'aborder la course d'une autre façon. Et après, ce qui était en second temps intéressant, c'est que j'ai pas tenu la distance. Hein, au bout de peut-être 4-5 heures, j'ai eu un gros coup de mou, donc on me doublait d'un peu partout. Mais il y a eu un rebond de mon organisme et après j'ai rattrapé tout ce qui m'avait doublé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je n'avais jamais vécu ça en course sur route. Et après, l'arrivée, beaucoup d'échanges avec les gens. Donc, c'était vraiment une expérience, vraiment une aventure. Et ça m'a énormément plu. J'ai tout de suite eu envie de renouveler l'expérience. C'est comme ça que j'ai mordu l'hameçon.
C'était une révélation, en quelque sorte.
Ouais, tout à fait.
Est-ce qu'il y a un moment de course que tu aimes en particulier, un instant de plénitude? Est-ce que c'est l'adrénaline du départ? Est-ce que c'est un paysage qui va te couper le souffle? Est-ce que c'est un moment où tu es en pleine aisance? Est-ce que y a des moments de course qui te sont chers, ou est-ce que c'est vraiment l'expérience globale et c'est un sentiment continu, enfin c'est dans son ensemble que tu l'aimes, ou est-ce que tu arrives à isoler des moments qui sont particulièrement chers dans la course?
Oh, c'est une globalité. J'aime vraiment toutes ces étapes, je m'y prépare. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a l'excitation du départ, il y a toute cette ferveur. Au départ, on a beaucoup d'échanges avec le public qui est là, ça donne une grande énergie, plus l'énergie de tous les coureurs qui sont autour et qui va dans le même sens. On veut tous aller au bout, ça déborde d'énergie, ça bouillonne, les gens sont heureux. J'aime bien ce moment-là. Et puis j'aime bien aussi rentrer dans ma course petit à petit, trouver le bon rythme, me sentir bien. Et j'aime beaucoup aussi affronter les grosses difficultés. Ça me plaît beaucoup. J'aime les moments de détente dans les descentes techniques, jouer avec le terrain aussi. Et j'aime bien aussi pouvoir courir librement sur une piste large pour souffler après avoir avalé les difficultés, avoir ce sentiment d'aisance, d'avaler 10 kilomètres facilement. Et puis, il y a toujours un peu émerveillement des capacités physiques humaines. C'est une réflexion que je me fais souvent quand je suis sur des grandes courses. Après 20 heures, on est encore en train de courir dans des endroits compliqués ou alors facilement sur des endroits dégagés. Et je trouve ça incroyable que notre organisme, avec si peu de carburant, puisse nous permettre de faire ça, quoi. Et ça m'épate. Puis après, y a l'arrivée, bien sûr. C'est aussi un bon moment de retrouvailles avec les autres, avec les amis. Et puis, c'est la satisfaction d'avoir atteint un but, son objectif, ou d'avoir découvert quelque chose.
Tous les moments sont bons dans la course, on le sait, mais dans le trail, finalement. Ta réputation de très bon gestionnaire, elle te précède, de gestionnaire en course, hein, j'entends, et t'as valu le surnom de métronome. Est-ce que c'est avant tout lié à une très bonne connaissance que tu as, toi, de ton corps et de tes ressources mentales et que t'as glané au fil de tes expériences? C'est ça qui fait que tu arrives à être en contrôle et en maîtrise et à faire face à peu près à toutes les situations avec beaucoup de régularité et de sérénité?
Je pense qu'effectivement, c'est lié à une bonne connaissance de mon corps, enfin une bonne connaissance de mes rythmes. J'aime bien être à l'écoute et des sensations et de mon cardio aussi. En fait, j'ai établi, je pense que j'ai établi des moyennes. Quand je me sens bien, mon cœur est à peu près tel battement, ça veut dire que je peux durer à peu près tant de temps. J'aime bien aussi savoir ma vitesse ascensionnelle ou en descente sur différents types de terrains. Et j'ai toujours été curieux de noter un peu tout ça et puis de faire des comparatifs, essayer de comprendre ce qui me convenait le mieux, là où il fallait que j'insiste à l'entraînement pour améliorer telle ou telle partie. Et ce qui fait que oui, j'ai une bonne connaissance de ce que je suis capable de faire. Après, c'est à moi de bien gérer pour arriver à l'objectif, bien sûr, hein, parce que je peux être capable de courir tant de temps à telle vitesse, mais si je pars un poil trop vite, je vais me rater.
C'est dans ta nature, enfin, cette idée d'être très méticuleux et très attentif, ou est-ce que tu as compris que c'était une des façons, en tout cas, de réussir à progresser, d'aller plus loin, t'imposait d'avoir cette espèce de discipline et de rigueur dans le suivi de tes performances, peut-être dans ton alimentation, ton hygiène de vie au général? Est-ce que c'est ça a toujours été ta façon de fonctionner, ou est-ce que tu as compris que c'était aussi un outil indispensable pour pouvoir aller plus loin?
J'aime bien avoir des repères, je pense, pour savoir où j'en suis et dans un objectif effectivement de progression. Donc noter ces entraînements, c'est pas bête, parce que ça permet de se situer. Si par exemple on part en voyage pendant quelques semaines, on revient, c'était pas le même type de terrain d'entraînement pendant un bon moment, on revient, c'est quand même pas mal, si on revient sur un terrain connu, de pouvoir comparer pour voir si la période qu'on a passée ailleurs a été productive ou au contraire a été plutôt négative, et ça permet de se comprendre aussi, d'apprendre à apprivoiser son corps, à voir ce qui fonctionne bien, ce qui est bon pour soi ou pas. Donc dans cet objectif-là, oui, j'ai pas mal noté d'éléments d'information, et depuis gamin, hein, j'ai toujours fait ça. Là, j'ai mes carnets d'entraînement depuis l'âge de 12 ans, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, et puis les zones sur lesquelles tu vois des améliorations possibles, pardon? Et est-ce que tu es dans une logique où tu as plutôt envie d'appuyer sur tes points forts et de lisser un peu tes points faibles, ou est-ce que tu essaies de faire des points faibles, tes points d'amélioration si tu en as identifié? Ou est-ce que tu es dans une logique d'essayer de toujours de faire évoluer vers le mieux les choses sur lesquelles aujourd'hui tu te sens peut-être un peu moins à l'aise et sur lesquelles ça requiert un peu plus de boulot? Comment est-ce que tu gères aussi ces aspects-là sur lesquels tu es peut-être moins à l'aise?
Ça a été évolutif en fait. Au départ, quand j'ai abordé le trail, je manquais de puissance. J'étais pas capable de monter très vite et puis de descendre vite également. Donc j'ai surtout travaillé au départ l'aspect marche en côte, parce que c'était quelque chose qui était assez nouveau. Bon, après, je l'ai bien intégré, et j'ai procédé par saut de puce. Donc j'ai compris que en échangeant avec les autres, hein, que ça suffisait pas de courir. Donc j'ai apporté du vélo à mon entraînement. Donc ça fait maintenant presque 20 ans que je fais du vélo, alors que j'en faisais pas quand j'étais jeune, hein. Donc il y a eu cette intégration du vélo dans l'entraînement, donc ça suppose qu'on peut moins courir à certaines périodes, hein, parce qu'on peut pas tout faire non plus en même temps. Donc après, l'étape suivante, c'est de pouvoir garder la même quantité de vélo, et puis de retrouver la même quantité de trail, et puis de voilà, d'année en année, c'est adapté, c'est augmenter la part de tel entraînement parce que j'ai ciblé tel genre de compétition. Là, par exemple, pour donner un exemple plus concret là, pour cette saison, là, au mois d'avril, je vais aller faire une course en Grèce qui s'appelle le Goulag. Donc là, c'est un 100 miles.
Ça n'est pas en Russie, donc?
Et non, c'est en Grèce. 14 000 mètres positifs sur 100 miles. Donc évidemment, je vais modifier mon entraînement. J'ai déjà commencé à modifier mon entraînement en vue de cette compétition. Si je veux pas trop tirer la langue dedans, j'ai intérêt à emmagasiner un maximum de dénivelé positif dès maintenant. Donc
Goulag, ça veut dire pentu en grec, c'est ça?
Non. Il s'est inspiré du mot goulag, et je pense qu'il a bien trouvé. Donc là, voilà, en ce moment, je mets l'accent sur le dénivelé, la puissance musculaire. À la Réunion, donc l'année dernière, donc 2021, j'ai bien couru, mais j'ai bien vu que je perdais du temps sur les autres en côte. Donc j'ai noté une baisse de puissance musculaire. Alors on me dit, oui, c'est ton âge, c'est normal. Après 50 ans, c'est normal. Donc oui, certainement, physiologiquement, c'est normal, mais j'ai pas envie d'en rester là. Donc cette année, c'est pareil. Donc j'accentue la puissance musculaire, d'où aussi mes choix de compétition pour pouvoir aller dans ce sens-là.
Hormis la Dasong 108, qu'on aura largement l'occasion d'évoquer plus tard dans l'épisode, tu as à ton actif un nombre impressionnant de courses mémorables aux quatre coins du globe. Je te propose un petit format question-réponse très, très court pour que tu me donnes un petit retour d'expérience sur les courses qui t'ont le plus marqué jusqu'ici. Alors, il y en a beaucoup, et c'est toujours un exercice très compliqué d'en isoler certaines. Mais quand même, je l'essaye. Est-ce que tu pourrais me dire, Antoine, la course qui a été la plus exigeante pour toi jusqu'à maintenant?
Le Tour des Géants. Ouais, sans hésitation.
C'est le dénivelé, c'est le terrain technique, c'est la distance, c'est le mélange de tout ça, ou des conditions qui ont été défavorables?
Non, alors j'ai eu la chance d'avoir de très bonnes conditions. Non, c'est la distance, c'est le dénivelé, hein, 330 km pour 25 000 environ, hein, c'est peut-être même un peu plus. et de la montagne technique et de l'altitude au-delà de 3000 mètres parfois, vraiment très difficile. Ouais. Moi, c'est le nombre d'heures sur le terrain qui a fini par avoir raison de moi. Bon, je suis allé au bout, hein, j'ai bien fini avec Christophe Lesault, c'était chouette. On avait fini 3e de l'épreuve, mais ouais, sans conteste pour moi, ce qui avait de plus difficile.
La course la plus surprenante.
La Adolescent Run en Afrique du Sud, où là on a couru dans une réserve africaine. C'était encore un 100 miles avec 9000 mètres de dénivelé. Et là on courait à la trace, donc au GPS, dans une réserve avec tous les animaux, hormis les félins, quoi. Donc avec des animaux dangereux de partout, et avec un briefing qui a duré 1h30 pour nous mettre en garde contre plein d'espèces animales qu'on allait rencontrer. Voilà, ça c'était un gros souvenir.
T'as réussi à profiter ou t'étais un peu sur le qui-vive tout au long de la course ?
J'étais sur le qui-vive tout au long de la course, j'ai vu des animaux de partout. La nuit, il faut imaginer la nuit, juste avec la frontale, et puis voir des yeux rouges dans tous les coins, dans les buissons. Et puis impossible de, je me disais, si jamais j'ai un truc qui m'attaque, je grimpe dans un arbre. Mais c'est impossible parce qu'ils sont tous épineux, on peut même pas toucher l'arbre. Donc c'est pas rassurant du tout. C'était quelque chose, un beau souvenir, ouais.
La course sur laquelle tu as connu la défaillance la plus inattendue ?
La plus inattendue ?
Ou en tout cas une défaillance marquante, parce que j'imagine que tes défaillances sont quand même...
Ah, une défaillance, oui. Pardon, je n'avais pas compris. Excuse-moi. Ah bah alors là, la défaillance inattendue, ça c'est...
C'est la Dasang, justement ?
Non, c'est la Croatie. 100 miles of Istria. Et là, j'étais parti en tête de course avec un japonais, et puis avec Grégoire Curmer. Voilà, on était trois, mais on était sur des bases de 18 heures pour le 100 miles, donc un petit peu fou. Mais ça a très bien tenu jusqu'à à peu près 100 km. Et après, on a traversé un champ de boue et ça m'a cisaillé les pattes, mais comme ça m'était jamais arrivé. Et à partir de là, j'avançais comme un zombie et je voulais arrêter. Et puis, non, c'est un combat intérieur. Après, arrêter, pas arrêter, sans cesse.
Je croyais que tu voulais jamais arrêter, moi, Antoine. J'avais ça en
tête. Je veux jamais arrêter, mais là, j'étais vraiment, j'avançais, mais alors, pas vite, hein. Et bon, j'ai tenu quand même. Mais ça, c'était une défaillance d'enfer.
La course où tu t'en es mis particulièrement plein les yeux.
Oh, je pense que chaque année, la Diagonale des Fous, hein.
Ouais. C'est une course particulière pour toi.
Hein. Ouais. Des paysages très, très changeants. C'est magnifique, j'aime beaucoup.
La course que tu n'oublieras jamais, s'il n'en restait qu'une, celle que tu chéris le plus, ça peut être une édition en particulier, mais quelle est aujourd'hui la plus précieuse?
Encore la Diagonale des Fous, hein, franchement. Ouais.
Ta victoire?
Oui, c'est celle qui me fait rêver le plus. Non, pas forcément la victoire, mais de me retrouver dans les sentiers, dans ma fat, dans les parties qui sont difficiles, en pleine chaleur, avec des paysages qui sont à couper le souffle. J'adore ce moment-là de difficulté où on se sent tout seul, il n'y a pas d'autre choix que de sortir de là, et là, on n'est que face à soi-même et il faut gérer. Moi, j'adore ça.
Merci beaucoup, Antoine. Quelques questions encore dans cette introduction. Est-ce que ton plaisir à courir aujourd'hui, il reste inchangé au fil des années ? Est-ce que les composantes de ce plaisir, elles ont... évoluer avec le temps, est-ce que l'accomplissement que tu trouves aujourd'hui dans ta pratique, elle s'appuie sur les mêmes fondamentaux qu'il y a 10 ou 20 ans, ou est-ce que tu vas chercher le plaisir ou la satisfaction dans d'autres choses ?
C'est un petit peu différent parce que pendant des années, j'ai bien vu que j'avais des capacités dans ce sport. Ce qui me tenait à cœur, c'était d'abord de me faire une place dans le monde du trail. Je savais que j'en étais capable, donc j'ai atteint ce niveau. Et puis ensuite, j'ai cherché à diversifier les lieux, alors et d'entraînement et puis compétitif. Donc ça, je l'ai fait aussi, hein, et je remercie pour ça tous les sponsors que j'ai pu avoir sur ma carrière sportive qui m'ont aidé, accompagné, qui me permettent encore aujourd'hui d'ailleurs de voyager avec le groupe Unifair, hein, qui me soutient et qui soutient Globetrailer. Donc ça, c'était une seconde étape. Aujourd'hui. Je sens que je peux encore faire des choses variées, mais sous forme plus de découvertes, de off, de partage avec des groupes. J'ai commencé à le faire, c'est des sorties partagées. Et j'ai envie d'aller découvrir des parcours, mais sous forme d'entraînement avec les coureurs. Et puis aussi de la curiosité maintenant de voir comment je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu au fil des années. Parce que là, maintenant, ça va être une sorte de lutte contre le temps aussi, où physiologiquement, normalement, les capacités baissent. et essayer de trouver les astuces pour contrer ça. Donc, je suis toujours aussi motivé parce qu'il y a toujours du challenge. En fait, ce qui me motive, moi, c'est le challenge. Donc là, maintenant, le challenge, ça va être de faire le mieux possible et puis de titiller les plus jeunes en ayant 50, puis 55, puis 60 ans. C'est rigolo, quoi. Donc, moi, ça m'éclate, ouais.
Est-ce que le maintien de ta motivation, il passe nécessairement par la définition constante de nouveaux objectifs ? Est-ce que c'est ta façon à toi d'avancer ? Est-ce que tu peux tout à fait vivre très bien avec un agenda de course qui est vide sur les prochains mois ? Ou est-ce que tu as vraiment besoin de ces stimulations constantes et de ces, voilà, de ces micro-objectifs ou méta-objectifs qui vont essaimer ton calendrier de l'année ?
Alors, c'est mieux si j'ai des objectifs. J'aime bien avoir des objectifs compétitifs. Là, quand on a eu la période plus sévère là, avec le Covid où tout était interdit, en 2020, on a quand même réussi à faire des offs. Je me suis entraîné dans mon coin, je me suis entraîné la nuit, je me suis entraîné, hein, je ne vais pas dire le contraire, hein, j'ai continué de m'entraîner. Et je peux tout à fait m'amuser je prends plaisir, moi, à aller faire du vélo le matin, courir l'après-midi. Mais ce qui va me manquer, c'est de ne pas être au contact avec les autres. Donc moi, j'aime bien pouvoir en parler, échanger, apprendre de. Voilà, et apprendre aussi des autres. Moi, je progresse dans l'échange. Donc, courir dans mon coin, ça ne me suffirait pas. Non, il faut que je sois au contact.
Tu as une vision résolument optimiste de ton avenir et tes capacités, puisque j'ai lu que tu considérais que n'en être qu'à la moitié du chemin de ce que ton corps pourrait te permettre de réaliser. J'imagine que c'est principalement imputable à une très bonne hygiène de vie. Est-ce que tu peux nous en donner un peu les grands principes ? Et puis, est-ce que par ailleurs, tu es du genre aussi à t'autoriser des petits pas de côté et des excès ponctuels, ou est-ce que tu es vraiment ascète et voilà, tu as une rigueur au quotidien de laquelle tu ne dérogeras pas ?
Ouais, non, je pense pas être ascète, mais effectivement, oui, la vision de pouvoir continuer longtemps, oui, je l'ai depuis longtemps. Je suis encore là aujourd'hui, maintenant j'ai 51 ans, et puis si je pars 15 ans en arrière, 51 ans, ça devait me paraître loin, et puis je devais déjà dire qu'à 50 ans, je continuerais, et bon, c'est toujours le cas. Donc ça tient d'une confiance en soi qui vient d'une bonne hygiène de vie, d'un bon équilibre, et puis d'être heureux aussi, hein, heureux de ce qu'on fait. Je suis pas trop branché, tu vois, j'ai pas de télévision qui vient m'envahir un peu l'esprit en me disant « tu devrais consommer ci, tu devrais faire ça ». Je pense que t'aimes ça. Non, moi, je fais mes choix. Et puis, ça a toujours été. Ça fait 30 ans que j'ai pas de télé. J'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est quand même, je trouve, le fléau du siècle. C'est ça. Pour moi, c'est cette invasion d'informations qu'on peut avoir chez soi, alors qu'il suffit de tout couper quand on est à la maison et de vivre pour soi, tout simplement. Donc, moi, c'est ce que je fais depuis très longtemps. Et puis, ça m'empêche pas d'être au contact des autres quand j'ai décidé de le faire. D'aller à tel endroit parce que j'ai décidé de le faire. Donc ma vie est un petit peu comme ça, je la dirige en fait, je fais mes choix et j'avance. Et je pense que ça c'est bon aussi parce que je sais où je vais et j'ai le temps de réfléchir à où j'ai envie d'aller. Je prends mes décisions, on prend nos décisions ensemble à la maison et c'est comme ça qu'on avance. Donc on est bien dans notre peau et donc on peut avoir une certaine confiance dans l'avenir.
On l'a compris, le trail et la course à pied de manière générale, c'est un des piliers fondateurs de ta vie, mais c'est loin d'être le seul. Il y a évidemment ta famille, l'écriture aussi, dont on n'a pas parlé encore, ta nouvelle vie d'agriculteur qui sont indispensables à ton accomplissement. Est-ce que c'est facile à organiser ou est-ce que c'est un casse-tête incroyable au quotidien d'arriver à trouver le juste équilibre et d'avoir tous ces piliers structurants de ta vie qui sont bien à leur place et qui font que tu te sens bien et que tu prends du plaisir ?
Alors, c'est pas évident. Effectivement, j'aime beaucoup. Il y a plein de choses qui me tiennent à cœur. Alors, j'avais fait une formation horticole et j'aime beaucoup l'arboriculture, j'aime beaucoup les arbres. C'est pour ça qu'on en a planté beaucoup, qu'on a un grand verger, des oliveraies. Mais c'est une passion. Et en même temps, j'aime aussi écrire. J'aime aussi aller en Grèce, apprendre le grec, courir, faire du vélo. Et les journées sont trop courtes. J'aimerais tout faire, mais je peux pas. Alors, c'est compliqué parce que quand je me mets à faire quelque chose, j'ai envie d'y rester. J'aime aussi beaucoup faire des murs de pierre, donc ça manque pas aussi bien à Vaillant qu'en Grèce. Je peux en avoir pour des années, hein. J'en ai des quantités immenses à faire. Mais c'est pénible parce que si j'en fais pendant 3 à 4 heures, je dis, faudrait que j'aille faire du vélo, faudrait que j'aille courir. Puis après, ce soir, il faudrait que j'écrive. Et puis, bien entendu, j'arrive pas à tout faire. Hein. Donc, il y a une petite frustration quand même. Mais bon, ce qui domine, c'est quand même le plaisir de ce que je fais. Donc, ça va. J'arrive à gérer quand même.
Est-ce que tu peux nous parler justement de la raison d'être de ton projet d'achat de livret et puis la construction de la maison en Grèce? Est-ce que, voilà, quel sens tu donnes à ce projet? Et puis je pense que tu as un lien très particulier avec la Grèce. Est-ce que tu vois ton avenir, enfin votre avenir en tout cas, s'écrire là-bas, en tout cas partiellement?
Bah, alors ça vient de tout petit. Hein. Mes parents allaient en Grèce chaque année quand j'étais tout petit. Hein. J'avais un an, j'y allais un mois et puis chaque année après pendant un mois tous les étés. Et ensuite, j'ai pris le relais seul en y allant à mon tour chaque été. Et puis on a pris tissé des liens avec des gens dans une région du sud du Péloponnèse. Puis à force. C'est devenu aussi un projet au fil du temps. On dit, ça serait bien un jour de pouvoir s'installer là-bas. Et puis, on a acheté une oliveraie il y a 2 ans maintenant, d'un hectare et sur laquelle on va pouvoir construire une maison. Donc là, elle est en train de se terminer. Et le projet, c'est de passer, partager mon temps, quoi, partager notre temps entre la Grèce et puis la France, en produisant de l'huile d'olive. De qualité, parce que c'est une huile monovariétale qui s'appelle la Koroneiki dans la région de Kalamata, qui est réputée une des meilleures du monde. Et donc on apprend avec les Grecs à nous en occuper. Et bon, là maintenant c'est bien parti et c'est encore autre chose qu'on apprend. C'est chouette.
Merci beaucoup pour cette introduction, Antoine. Elle a été un peu longue, mais ça valait le coup de bien s'immerger dans ton parcours de vie avant de s'attacher plus particulièrement à ta course épique.
Merci.
Place maintenant à notre rubrique qui s'appelle la basket chinoise, qui porte bien son nom aujourd'hui au regard de la course qui va nous intéresser. Première question de cette basket chinoise, donc un portrait chinois version sportif. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu?
Oh, j'avoue que c'est surprenant, un personnage fictif.
T'as pas d'héros d'enfance
J'en ai
dont...
créé un, c'est Tim Runwood, donc il m'irait bien en fait. C'est un ultra trailer à qui il arrive pas mal
D'aventure.
d'aventures, voilà, qui est confronté à des personnes qui ne partagent pas forcément sa façon de vivre, mais du coup s'adapte. Donc je trouve ça assez correspondant.
À quel point il est inspiré de toi, ce team?
Je pense que c'est un coureur un peu aventureux qui aime découvrir, qui aime le dépassement de soi, tout en partageant en essayant de partager des bonnes valeurs.
Il aime l'huile d'olive ou pas? Probablement.
Ah, certainement, oui.
À découvrir dans un prochain tome.
Parce que le deuxième se passe en Grèce, donc effectivement, il y a deux volets déjà.
Exactement. Si tu étais un animal, Antoine, lequel serait-il?
Ah, j'ai toujours aimé le serpent. C'est un animal assez énigmatique, qui est méconnu, qui est assez discret. Donc moi j'aime bien le serpent, mais il n'est pas agressif, hein, attention.
Une couleuvre.
Allez, on va dire une couleuvre, ouais.
Dernière question de cette basket chinoise, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est une source d'inspiration particulière pour toi, quelle que soit la discipline, quelle que soit l'époque? Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui a marqué ta vie?
Ouais, depuis petit, ouais, c'est Yannis Kouros. Yannis Kouros
Quand tu
qui.
courais jeune enfant, c'était ton
Ah, il me
inspiration?
faisait rêver parce qu'il traversait des grandes distances en Australie. C'était un champion du 24 heures, du 48 heures, des 6 jours. Ça m'a toujours fait rêver, oui.
Merci beaucoup Antoine. Le moment est venu de parler de ta course épique, la Dasong 108. Avant cela, je vais planter le décor de la course comme je le fais habituellement. Donc là, l'exercice était un peu particulier puisqu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur Google sans parler couramment chinois en tout cas, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, tu m'as transmis quelques éléments bien utiles pour en donner les contours. Situé dans la province de Hangzhou, à 170 km de Shanghai, cette épreuve de 108 km pour 6 000 m de dénivelé positif se déroule en petite montagne avec un point culminant à 466 m. La course compte son lot de versants très escarpés, un sol constamment dur fait à 70% de marches cimentées, de sections sur route et quelques sentiers de crête très techniques, tout cela sous une humidité particulièrement marquée. La course combine également des forêts qui seraient autrement inaccessibles, le passage à proximité d'un lac immense, de longs moments de solitude et à l'inverse des sections en contact d'une foule très dense lors de ces passages urbains. Cerise sur le gâteau, histoire de pimenter un peu cette course qui n'en a peut-être pas besoin, l'édition à laquelle tu as préparé en 2016 se tenait 4 semaines seulement après la Diagonale des Fous sur laquelle tu venais de signer une tonitruante. Deuxième place, donc voilà, un sacré enchaînement. En tout cas, voilà quelques éléments. J'ai rien oublié sur la Dasong, c'est à peu près ce qu'il faut avoir en tête sur le contexte de la course. Il manque rien.
Oui, son format, tu l'as dit, oui, c'est bon.
Avant qu'on se plonge dans ta course épique, Antoine, j'ai malheureusement pour toi une petite rubrique qui s'appelle la question qui pique de course épique. Donc c'est une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de crampes dans ce récit de ta course épique. Et dans la liste des crampes célèbres, il y en a une particulière et relativement récente, qui est celle qu'a connue Usain Bolt à l'occasion de la dernière course de sa carrière, puisque la superstar jamaïcaine n'a en effet jamais pu terminer la dernière course qu'il devait faire. C'était une finale du relais 4 fois 100 mètres des mondiaux d'athlétisme de Londres en 2017. Et donc voilà, il était lancé à la poursuite du Britannique Mitchell Blake et de l'Américain Coleman, et il s'est cabré à une cinquantaine de mètres de l'arrivée, notre pauvre Usain. Il avait la jambe gauche en déséquilibre et il était victime d'une crampe qui l'a empêché de mener le bâton jusqu'à l'arrivée. Et donc voilà, il avait les larmes aux yeux, il s'est arrêté, il était probablement très meurtri par ce triste dénouement et cette fin de carrière. Et il a refusé le fauteuil roulant qu'on lui proposait pour se relever péniblement et aller par lui-même retrouver ses coéquipiers en boitant. Donc voilà, cette question qui pique aujourd'hui relative aux crampes va donc s'intéresser à ce sprinter de légende qui est Usain Bolt. Je vais te demander, Antoine, de classer par ordre de vitesse de pointe croissante, donc de la moins rapide à la plus rapide, trois espèces animales et Usain Bolt. Est-ce que tu es prêt? Donc les trois animaux.
Moins rapide, plus rapide.
Et au milieu de tout ça, il y a Usain Bolt. Donc l'écureuil, le guépard, le rhinocéros et donc Usain Bolt. Qui est le moins rapide, du moins rapide au plus rapide? Écureuil, guépard, rhinocéros et Usain Bolt.
Alors, j'irai. Écureuil, Usain Bolt, hippopotame et guépard.
C'était rhinocéros. Mais oui, c'est exactement ça. Bravo.
Ah bon.
La vitesse de pointe de l'écureuil, c'est 32 km/h. Usain Bolt, c'est un peu plus de 40 km/h quand il est au maximum. Le rhinocéros peut atteindre les 55 km/h. Moi, je ne savais pas. Donc, il vaut mieux éviter d'être chargé par un rhinocéros. Heureusement, ce n'est pas très courant. J'habite à Paris, donc je ne suis pas très exposé.
J'avais appris à mes dépens sur la course d'Afrique du Sud, justement. On avait été mis en garde contre le rhinocéros très rapide.
Dans ton oreille quart de briefing, il y avait 20 minutes sur le rhinocéros. Et le guépard, donc, il va quand même jusqu'à 115 km/h sur 300 mètres. En tout cas, ouais. Il est capable d'atteindre cette vitesse. Donc, c'est impressionnant.
Ouais, c'est beau.
C'en est fini notre question qui pique, mi-homme, mi-animal, qui aurait donc pu parfaitement trouver sa place aux Jeux Olympiques. Voilà. Place désormais à ta course épique, Antoine.
Bien vu.
Pour commencer, est-ce que... J'ai un peu honte.
Non,
il y a toujours une petite blague très discrète à ce moment-là de l'épisode. Voilà, les connaisseurs l'auront remarqué. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette Dasong 108?
C'est une course qui m'a été proposée par mon sponsor de l'époque, Red Light, qui est en partenariat avec cette épreuve. Donc ça me faisait très proche de la Diagonale des Fous, mais en même temps, ça se refuse pas. C'est un voyage original, et puis aller voir des nouveaux coureurs aussi. Donc j'étais tenté. J'ai dit, bon, puis on verra bien le résultat, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de découvrir.
Oui, c'est un peu une constante chez toi, tous tes projets de course. De toute façon, tu les inscris dans un projet plus global de découvrir des nouveaux environnements, découvrir une nouvelle culture, aller à la rencontre de nouveaux peuples et de partager. C'est ça qui te guide de toute façon au-delà de la course.
J'aime beaucoup. Maintenant, je n'accepte pas tout, hein, parce que j'ai déjà eu des propositions sympas pour aller courir en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti, mais pour des petits formats. Mais bon, après, c'est vraiment pas raisonnable de prendre l'avion pendant 24 heures pour aller faire une petite course et rentrer chez soi. Faut pas exagérer non plus. Donc ça, je fais pas.
Bien sûr.
Ouais.
Est-ce que tu redoutais un éventuel manque de fraîcheur avec ta diag à peine digérée, ou est-ce que
tu ne posais pas trop
la question?
Oui, tout à fait. Ouais, bah surtout sur un format 108 km qui est quand même un format rapide. Hein, parce que bon, moi, je pouvais être fatigué, mais j'allais forcément rencontrer des coureurs frais, hein, qui s'étaient préparés que pour cette course. Donc forcément, ouais, de ce côté-là, j'avais des craintes, mais tu sais aussi, moi, le résultat, si je peux gagner une course, je suis content. Si après, je suis loin derrière, c'est pas grave, hein, c'est le chemin qui est important aussi, hein, donc de toute façon, je sais que je serai satisfait de participer. Quoi.
Est-ce que tu as mis en place quand même quelques éléments de préparation en particulier, ou le seul objectif, là, c'était de bien te retaper après la diag et d'arriver le plus frais possible?
J'ai pas eu le temps, parce qu'en fin de compte, j'ai su ça très rapidement, on va dire, oui, même trop rapidement. Donc, j'ai pas eu du tout le temps de mettre en place un entraînement particulier, adapté. Tout ce qu'il me fallait faire, c'était jongler entre la récupération de la diagonale, donc sur 2 semaines à peine, et puis reprendre juste ce qu'il fallait pour faire un petit pic d'entraînement une semaine avant d'être prêt sur la Dasong, parce qu'il y avait 4 semaines, je crois, d'écart. Donc, c'est très, très court.
Est-ce que tu as quand même eu le temps d'apprendre à dire en chinois où est-ce qu'est la ligne de départ, s'il vous plaît, ou c'était même trop court pour que tu aies le temps d'apprendre ça?
Non, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps. Et d'ailleurs, quand il y a eu le décompte de la course, comme je savais pas compter jusqu'à 10, j'ai rien compris. Et moi, je pensais qu'ils discutaient, ils étaient en train de faire le décompte, et hop, c'est parti sans moi.
Note pour plus tard, regardez comment on dit prêt, peut partir en chinois. Est-ce que tu peux nous parler justement, Antoine, de ton arrivée qui a été un peu tâtonnante, justement, de ton arrivée sur place et puis ensuite de tes premières impressions quand tu es arrivé dans la ville de Hangzhou? Quel a été un peu ton rapport d'étonnement sur cette ville que tu découvrais?
Oui, alors c'était un voyage particulier parce que je suis arrivé à Shanghai. Moi, j'avais un billet d'avion pour Shanghai et un second billet d'avion pour aller de Shanghai à Hangzhou. Et quand je suis arrivé à Shanghai, bon, bah, j'ai demandé où était l'autre salle pour prendre le second avion. On m'a dirigé. Et bon, j'ai suivi la direction et puis je me suis retrouvé dans une gare routière. Et en fait, mon deuxième billet a été changé en billet de bus. Et là, le problème, c'est qu'arrivé à Hangzhou, j'étais pas du tout à l'aéroport. J'étais à la gare routière et on m'attendait, moi, à l'aéroport. Donc, il a fallu que j'essaye de prévenir les personnes de venir me chercher. Mais le problème, c'est qu'ils parlaient pas anglais et... Mon portable, il y avait plus que 3 ou 4% de charge et ça a été vachement compliqué. J'ai eu la chance que quelqu'un qui était là au guichet a fini par prendre l'initiative de chercher des numéros de téléphone ailleurs avec le nom de la personne. Ils ont trouvé. Ça a été compliqué. Je me suis vu rester à Hangzhou à la gare routière.
Qu'est-ce que tu as pensé de la ville en arrivant? Tu as été plutôt surpris par rapport à l'idée peut-être que tu te faisais d'une grande ville chinoise, puisqu'on parle quand même d'une très grande ville, quoi, d'une mégalopole.
Ben en fait, j'ai été surpris des Shanghai, parce qu'enfin entre Shanghai et Hangzhou, il y a 160 km au moins, et ben il y a 160 km d'immeubles, de barres d'immeubles et je me suis même amusé parfois à compter des espèces de lots de barres d'immeubles où je me disais tiens, là ça représente à peu près tant de milliers de personnes par immeuble, là, ça fait 200 000 personnes ici, 200 000 personnes par là, c'est faramineux, hein, c'est pas du tout notre échelle
c'est pas la même échelle,
de comptage. Ouais. Non, c'est fou. C'est une vraie fourmilière. J'ai été surpris par ça. Ça m'a un peu fait de la peine, en fait, parce que on a vraiment l'impression de voir une autre forme de vie. Hein. C'est la vie un peu robotisée. C'est pas très agréable, en fait, quand on vit dans des grands espaces. Parce qu'il faut reconnaître qu'en France, on a des grands espaces. Quand on voit ça, ça fait de la peine parce que on se dit mince, ils connaissent peut-être pas autre chose et ils sont là tous entassés par centaines de milliers dans des kilomètres carrés. Ça fait de la peine. Mmh. Moi, c'est surtout ça, hein, qui m'a choqué. Hein, c'est cette promiscuité, vraiment à fond, quoi.
La journée qui suit ton arrivée, tu découvres un peu plus précisément le terrain environnant. Quels premiers enseignements t'en tires sur la course qui t'attend? Est-ce que t'as déjà une intuition sur ce que ça présage pour la suite?
Alors oui, là par contre, quand j'arrive sur Hangzhou, c'est déjà plus agréable parce qu'il y a des espaces autour boisés, il y a un grand lac, il s'appelle le Grand Lac d'ailleurs, Grand Lac d'Ouest. Il y a des secteurs marchands, c'est des allées commerçantes qui sont très agréables. C'est tout à fait différent. Et bon, je cherche les chemins. Hein, on m'emmène en footing avec un club avec des coureurs de red light Chine. On va courir, mais on trouve surtout des escaliers, du béton, même dans les collines. Hein, les collines sont aménagées d'escaliers bétonnés. Et voilà, donc je vois que le terrain, ça va être un terrain dur. Ça a rien à voir avec nos sentiers techniques et nos traces. Donc voilà, je me fais une idée un peu plus précise de ce qui m'attend. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de la start list que j'imagine peut-être à tort, mais très majoritairement chinoise? Est-ce qu'il y avait d'autres coureurs internationaux qui étaient présents aussi sur place? Et puis, est-ce qu'on parle d'une course qui est relativement intime ou à plus grande échelle en termes de nombre de coureurs?
Alors, c'était essentiellement des coureurs chinois. Je ne sais pas si j'étais le seul européen, mais non, il y a peut-être deux, trois européens quand même, mais sur 250 coureurs environ.
Avec quelles ambitions tu te présentes? Je ne sais pas si c'est ambition d'ailleurs ou c'est plutôt un objectif. Tu te présentes sur cette course? Qu'est-ce que tu as envie d'y vivre?
Plus la course approche et plus j'ai envie de faire vraiment le meilleur, enfin donner le meilleur. Je me sens bien bien prêt. Je trouve avoir bien récupéré de la diagonale. Je me suis pas trop entraîné. Et donc, je bénéficie d'une certaine fraîcheur et du gros bloc qu'a constitué la diagonale. Donc, je suis plutôt en canne. À ce moment-là, je pense que je dois pouvoir faire quelque chose de bien. Mais par contre, j'ai aucune idée de la valeur des coureurs qui sont autour. Là, je n'ai strictement aucune idée, je connais personne.
Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes sur la course, plus particulièrement ? Est-ce que tu as un point d'interrogation ? Je ne sais pas si c'est l'appréhension, mais en tout cas, quelque chose qui te questionne, que tu as l'impression de moins connaître, moins maîtriser ?
Non, ce qui va m'inquiéter, c'est surtout que quand on s'est entraîné, donc il fait chaud, humide, et que les escaliers sont très glissants. Et là, bon, j'ai fait un bon choix quand même de chaussures avec des semelles Vibram qui accrochent. Mais malgré tout, j'ai vu que ça glissait sur les dalles lisses et c'est un peu ça que je crains. C'est de perdre beaucoup d'énergie avec cette surface glissante.
Ça y est, Antoine, nous sommes le 19 novembre 2016, le grand jour est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler du cadre de la course et nous projeter dans le décor environnant à quelques instants du départ? Et puis, quelle est l'atmosphère sur place? Est-ce que l'ambiance est à la fête?
Alors là, on est réunis, donc les 250 coureurs, sous l'arche de départ. C'est dans une grande cour avec des immeubles qui sont autour, mais très colorés, avec décorés pour la circonstance, avec beaucoup de banderoles, des écritures chinoises que je ne comprends pas du tout, mais c'est très très gai, avec des coureurs qui sont tous habillés en long. Alors, en Chine, on court souvent en long, pas beaucoup en short, donc je suis un des seuls en tenue assez légère, et ils sont tous armés de bâtons, et on n'a pas de chemin devant nous, on a juste des immeubles vitrés, et je ne sais pas encore par où on va sortir.
C'est la surprise. Donc la procédure de départ, elle est assez inhabituelle ou en tout cas inattendue?
Bah, complètement inattendue, parce que franchement, je vois dans quel sens on va partir, mais il n'y a que des immeubles en face. Et alors bon, là, du coup, tout le monde parle, ça dure longtemps. Et puis il y a le décompte que je ne comprends pas. Et hop, tout le monde s'élance et fonce vers des baies vitrées. Et avant qu'on arrive, les baies vitrées s'ouvrent. Donc ce sont des baies d'immeubles, hein, des baies vitrées. Il faut attendre que les baies vitrées s'ouvrent. Et puis après, on rentre dans le hall du bâtiment. Et on ressort de l'autre côté où les portes, par contre, sont déjà ouvertes, avec des gardiens qui nous indiquent le trottoir par où nous échapper. Donc il y a une course vraiment très originale dès le départ. Hein.
C'est assez inattendu, effectivement. Et donc après un départ qui est assez soutenu, mais qui te va finalement assez bien, tu te frottes aux premiers escaliers de la course qui vont donner d'emblée lieu à quelques acrobaties. Et justement, ce que tu évoquais tout à l'heure comme petite source d'appréhension, c'est un exercice pas très simple.
Bah, effectivement, ouais, on court sur le trottoir pendant les quelques centaines de mètres, et puis aussitôt, bah, on prend un premier escalier et qui part, par contre, de manière surprenante, déjà dans une forêt, alors qu'on était en pleine ville. Ça, je n'avais pas remarqué. Et effectivement, il y a des collines autour qui permettent de nous échapper, mais qui sont masquées par la hauteur des immeubles. Et à partir de là, on pense plus à la ville, on est déjà parti. Donc c'était assez remarquable, au bout de peut-être 1 km, déjà on pense plus à la ville, on est dans un environnement au moins végétal. Mais par contre, le sol,
il n'y a plus baie vitrée.
Voilà. Alors le sol, il est à l'ombre, donc c'est très glissant, parce que à ce moment-là, il doit faire à peu près 25 degrés, je dirais, et avec une petite brume au-dessus, alors peut-être aussi un peu de pollution, mais il y a le lac qui est pas très loin, donc je pense que c'est surtout une brume très humide, et donc l'ambiance est moite, et le sol, lui, il est glissant, parce qu'il est recouvert d'une espèce de lichen, et dès que ça descend, il y a des dérapages, hein. Je fais des sorties d'escalier. Bon, sur les bords, c'est beaucoup d'arbustes bien denses, donc on se rattrape très facilement, mais hop, on se remet sur les rails, et puis c'est parti. Et bon, bah, ce jeu-là, j'y vais quand même assez tranquille. J'y vais pas tranquille, mais j'essaye de pas me laisser emballer. J'ai le cœur qui va très haut, et à 90%. Et je dois être en 7 ou 8e position. Ça cavale, et puis ils ont l'habitude. Ça se voit qu'ils ont l'habitude de courir dans les escaliers.
C'est globalement pas très simple de communiquer et de suivre le tracé, puisqu'il y a des bénévoles qui sont aussi très contents de faire des photos avec les coureurs. Donc vous vous perdez un petit peu, notamment dès le départ, en fait, puisque vous passez à côté du premier CP, et c'est pas juste toi, c'est vous êtes un certain nombre de coureurs à passer complètement à côté, c'est ça?
Voilà, ouais, effectivement, la course se met en place. Moi, je finis par avoir un rythme à peu près équilibré avec un coureur. On peut pas discuter parce que il parle pas anglais du tout. Donc si à checkpoint, ça allait. Donc on parlait du checkpoint parce que bah, on en était à une douzaine de kilomètres et puis on savait qu'il y avait un point d'eau. Et mais ce point d'eau, on l'a jamais trouvé en fait. Comme tu le disais, bah, les bénévoles sont là avec leur appareil photo. Ils nous voient passer, alors ils font des photos avec nous et puis ils sourient et puis ils nous laissent partir. Mais ils nous disent pas qu'il y avait il fallait aller à droite pour aller sur l'étape de ravitaillement. Donc c'est comme ça que bah à deux, on loupe le premier CP. Et avec cette moiteur, la chaleur qu'il y avait, ça posait problème. Donc, il y avait un autre CP 11 km plus loin. Et où là, de nouveau, on a vu un autre bénévole qui, pareil, fait des photos et nous disait de continuer. Ils disent ouais. Donc, pour aller en face. Et on se disait que non, c'est pas possible. Et en me retournant, j'ai vu qu'il y avait une autre rue avec des tables et le ravitaillement. Donc, en fait, on est allé, heureusement, nous ravitailler. Mais le bénévole n'était pas là pour nous envoyer sur la table de ravitaillement, il était là pour faire des photos, clairement. Encore une originalité.
Donc tu passes ce premier point d'eau et puis tu continues ensuite à longer une base militaire avec un coureur chinois. Vous arrivez après 25 km de course et 2000 mètres de déplus qui sont derrière vous. Vous êtes visiblement les premiers, tu n'en as peut-être pas tout à fait la certitude. Comment est-ce que toi tu gères à ce moment-là déjà la chaleur, l'humidité, le terrain dur? C'est quand même une épreuve particulière. Est-ce que t'as déjà des premiers signes d'usure un peu inhabituels ou est-ce que globalement t'es à ta main?
Bah là, à ce moment-là, je me sens bien. Je vois que ça va vite. Hein. On est sur des bonnes bases. Et effectivement, là, on longe un grillage, une propriété militaire. Et devant, c'est vraiment de la soupe. Hein. J'ai de la boue, mais il doit y avoir 15-20 cm d'épaisseur vraiment de la mélasse. Mais ça colle pas aux chaussures parce que c'est surtout de l'eau, quoi. C'est de la boue, c'est tout jaune, et alors on s'en asperge complètement, hein, jusqu'au cou, hein, on s'en fout partout. Et bon, bah, je dirais que je suis bien, je suis à ma main à ce moment-là, il y a 25 km de passé. Ça va bien, mais ça va vite.
Et il y a une petite valse entre vous deux, justement, où sur les kilomètres suivants, vous vous reprenez mutuellement sur des descentes, sur des montées, sur chacun sur son terrain un peu plus favorable. Vous avez cette valse et cette danse que vous menez tous les deux.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas exactement le même rythme. Il est beaucoup plus à l'aise dans les montées en escalier. Lui, il a des grosses cuisses. Il est vraiment musculeux et il doit être vraiment rompu à cet exercice. Alors, il avale les marches faciles. Et après, bon, en descente, je recolle. Et puis, quand il y a des phases un petit peu plus roulantes, à ce moment-là, il me suffit d'allonger un petit peu. Puis, je suis à côté de lui et on fait un peu le yo-yo comme ça. Ça dure un bon moment jusqu'à ce que je sente quand même des petits tiraillements dans les mollets, des douleurs vives, mais juste des points vifs comme ça qui me font changer ma foulée sur un ou deux pas. Et ça me surprend parce que j'ai jamais connu ça.
Donc c'est les crampes qui te font courir moins vite qu'un écureuil, tu penses, cette fois?
Là, je crois même que je vais pas la vitesse de l'écureuil, hein, 32 km heure. Non, c'est
ça
pas
serait
pour
compliqué.
Moi.
Est-ce que ces premiers signaux d'alerte te préoccupent? Est-ce que tu arrives à te dire que c'est peut-être juste un coup de moins bien et qu'il faut serrer les dents? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être pas annonciateur d'une suite de courses sereine?
Ça m'embête, ouais, parce que j'ai jamais connu ça, mais je sais ce que c'est. Je peux mettre déjà ça sur le compte de plusieurs facteurs. Il y a la chaleur, l'humidité. Il y a le rythme qui est plus rapide que d'habitude, donc une sollicitation musculaire plus profonde. Dans une amplitude inhabituelle, donc ça vient tirailler encore un petit peu plus. Une récupération de la diagonale des fous qui ne doit pas être optimale. Et puis, le manque d'hydratation que j'ai eu en loupant le CP. Donc ça fait beaucoup de facteurs qui m'indiquent que je vais avoir droit probablement à des crampes. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de boire davantage. Donc pendant un bon moment, je bois beaucoup plus. Mais les points reviennent, hein, assez régulièrement. Surtout quand je dois allonger la foulée ou passer une marche plus haute.
Malheureusement pour toi, le terrain à ce moment-là, il est plus technique. Est-ce que tu peux nous parler notamment du passage sur une crête qui, en temps normal, aurait été un terrain de jeu idéal pour toi et qui est là contrarié justement par ces crampes? Comment tu gères ce moment-là?
Bah là, on atteint comme ça le 45e kilomètre à peu près et on tombe sur une ligne de crête qui est vraiment magnifique. Faut imaginer une crête avec les tombants profonds à droite et à gauche, et on est au-dessus d'une brume avec des végétaux très denses, foncés, c'est magnifique. Et le sentier, lui, il serpente avec des gros rochers qu'il faut soit contourner, soit enjamber. Et il y a un moment, je me retrouve devant une petite allez, un petit enchaînement de rochers à devoir franchir. Et là, bah, ça me prend complètement. J'ai un mollet qui se tétanise complètement. Ça fait très mal. Donc, je m'accroche à un arbre sur le côté et puis j'essaie de détendre le mollet. Donc, ça va. Mais dès que je refais 2-3 pas, ça recommence. Donc, ça me fait vraiment mal. Hein. Ça fait crier sur le moment. Donc, le chinois est inquiet, là. Et puis, bah, je lui dis de continuer parce que, bon, de toute façon, c'est des crampes. Je pense que ça va passer. Et puis, je lui dis de faire sa course. Hein. Alors, je fais signe. Bon, bah, du coup, il part. Mais, et en fait, bah, après, je sais pas comment je m'y prends. J'essaye de repartir. Je crois, j'essaie de repartir et de franchir un rocher. Et en fait, j'aurais pas dû parce que ça me tétanise à nouveau le mollet. Et puis, ça me fait tomber. Et en tombant, sur le dos, les deux mollets se tétanisent. Alors, à partir de là, c'était un enfer. Et là, heureusement, il a été sympa. Le coureur, il a prévenu juste au sommet de la crête. Il a prévenu deux bénévoles qui étaient en poste de ma situation. Et ils sont venus et à partir de là, bah, ils ont commencé donc à m'aider. On a enlevé les chaussures. Ils ont essayé de faire passer ces crampes. Ils m'ont donné un peu à boire. Ils ont mis une couverture. Après, il y a des coureurs qui sont passés. Des coureurs.
Alors, 50, c'est ça qui vous ont rattrapé?
Bah ouais, il y avait deux courses au départ. Il y avait 50 et 100 km. En fait, nous, on était quand même en tête de course de l'ensemble. Et après, il y a des coureurs de 50 qui sont arrivés. Il y en a qui sont arrêtés et qui sont restés 10 minutes hein, avec moi hein, pour essayer de réchauffer les mollets avec leurs mains. Ils ont été hyper gentils. Et bon, il y a un moment, il y en a qui m'a donné des pastilles de sel. Mais ça, c'était peut-être au moins trois quarts d'heure après. Quoi. Parce qu'au total, je suis resté presque une heure et un quart par clair.
Est-ce que tu te dis alors que la course est irrémédiablement terminée, qu'elle va se conclure dès lors que tu auras réussi à rallier le prochain checkpoint?
En fait, je reçois un appel. Parce que tout ça, ça dure. Donc, les bénévoles, ils appellent aussi au PC course. Et donc, ils ont au téléphone la correspondante qui parle français et qui m'avait invité justement à la course via Redline.
Miss Feng, pour la citer.
Voilà, Miss Feng. Et donc, elle me dit que 3 km après, il y a la bifurcation du 50 km et que là, il y a l'arrivée du 50 km juste à côté et puis que bah, j'ai qu'à passer par là quand je peux marcher pour arrêter. Moi, j'ai dit, on verra. Mais dans ma tête, cette idée-là ne me venait même pas à l'esprit hein, d'arrêter. Je me disais surtout comment sortir de là. Et puis donc finalement, ça va mieux à force de boire, les massages, tous les soins que les personnes essayent de m'apporter. Donc, je remets mes chaussures et puis je teste hein, de passer un rocher, ça passe. Je fais quelques pas encore, donc ça a l'air de pas se crisper de nouveau. Donc je suis accompagné par des coureurs et puis par des personnes de l'organisation. On doit faire encore 1 ou 2 kilomètres et puis là il y a la bifurcation. Et là je fais appeler le comité directeur pour leur dire que je continue, que c'était OK et que puis voilà. De toute façon je me dis qu'il y a d'autres CP plus loin. Si jamais ça venait à recommencer, après je serais obligé d'arrêter. Mais dans mon esprit, je ne suis pas venu jusqu'en Chine pour aller faire 50 km et puis mettre le clignotant.
Donc, c'est ça qui te tient, la ressource, tu vas la chercher, ce qui te donne de l'allant pour continuer en dépit de la douleur, parce que ce serait probablement beaucoup plus simple d'abandonner à ce moment-là. C'est cette idée de se dire que tu n'as pas fait tout ça pour t'arrêter au bout de 50 km.
D'une part, il y a ça. Et puis, il y a toute l'énergie des personnes qui étaient autour, qui ont essayé qui ont fait ce qu'il fallait pour que je puisse repartir. Ils ont été vachement sympas. Donc, pour eux aussi, je me disais, ouais, c'est chouette si j'arrive à finir cette course. Dis donc, ce sera un bel exploit. Et puis ils seront contents aussi. Enfin, tout le monde sera content. Moi, eux aussi, il y a pas de doute. Donc, ça donne une force supplémentaire. Et puis c'est reparti. Hein. J'ai trottiné un petit peu, ça passait. Et puis trottiné un peu plus vite, ça passait toujours. Et j'ai senti des limites. Hein. J'ai vu que j'avais une amplitude à pas dépasser, une façon de courir à ne pas franchir quoi hein, et je me suis réchauffé de cette manière-là, j'ai dû rassouplir un petit peu tout ce petit monde musculaire là, et ou tendineux et puis c'est reparti.
Tu connais ensuite donc on a compris la machine est relancée, tu connais un merveilleux accueil à l'approche du CP6. Est-ce que tu peux nous parler de cette arrivée sur ce checkpoint et cette pause réconfortante où tu te fais bichonner et t'en profites aussi pour refaire le plein de sel?
Alors donc du coup ça va pas mal. Ce qui est assez, c'est marrant, curieusement, j'essaye de savoir où j'en suis parce qu'il y avait plein de coureurs sont passés, du 50, du 100, je sais pas qui est qui. Hein. Et donc il y a un pointage en fait avant ce CP, il y a un pointage. Et là je vois sur la feuille de pointage que je suis je suis sixième, je crois. Et je me dis, bah, je suis pas si loin, donc si ça continue comme ça, allez, objectif, c'est d'essayer de rattraper le podium, quoi, voilà. Donc, je me suis fixé un nouvel objectif. Je
compétiteur jusqu'au bout.
Voilà, et c'est reparti. Et là, j'arrive au CP suivant. Alors là, j'ai un beau comité d'accueil parce qu'ils tous savaient ce qui se passait. Et puis, il y a un responsable de club qui est là, il me fait un massage. Pendant ce temps-là, on me fait manger, on me donne des patates douces qui ont été cuites spécialement parce qu'ils savent que j'aime la patate douce. Ils me donnent du bouillon avec du sel, ils me donnent des pastilles de sel pour la suite. Vraiment, je suis chouchouté. Là.
C'est tout pour que tu n'aies pas envie de repartir, en fait.
Ouais, ils ont compris que je voulais arriver. ils savaient que je voulais arriver et j'avais besoin d'un petit coup de pouce. Non, là, ils ont été vraiment gentils et ça donne du baume au cœur. Donc, il y avait une bonne ambiance. En fait, ce n'est pas une compétition. On voit bien, ce n'est pas une compétition internationale. C'est une compétition... c'était la première édition hein, de cette épreuve, donc ils mettaient vraiment leur cœur pour que ça fonctionne. Et puis ils étaient très contents que je sois là. Et puis c'était réciproque. Donc il y a un bon courant qui est passé. Et puis voilà, je suis reparti de là avec tout ce qu'il fallait pour aller au bout cette fois.
Tu repars donc en cinquième position à 1h15 du premier et 30 minutes du troisième. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite de la course, parce que Le contexte évolue un petit peu, tu es dans un environnement qui est beaucoup plus urbain, tu vas traverser un parc qui surplombe un concert, enfin, c'est un peu une autre dynamique et une autre expérience que ce que tu avais connu jusqu'alors. Comment est-ce que toi tu vis ces passages un peu plus dans la foule avec de la lumière? Est-ce que c'est aussi agréable? Et je ne sais pas si ça casse la monotonie, mais est-ce que ça en tout cas te donne une autre lecture et te donne une autre forme d'énergie?
Effectivement, ça change, comme tu le dis, ça devient beaucoup plus urbanisé. On refait une petite incursion dans la ville. Et là, je suis quand même un peu inquiet, surtout pour le balisage, parce que c'est très éclairé. Il faut imaginer que la nuit en Chine, alors qu'il tombe très tôt à cette époque, c'était à 17h30, hein, il fait déjà nuit. Donc là, ça y est, la nuit arrive. Et il y a des lumières de partout, et il faut arriver à distinguer des petits fanions dans tout ça. Ou des petites lumières clignotantes rouges, mais des lumières clignotantes rouges, il y en a partout. Les vélos en ont, les mobilettes, il y en a de partout, des clignotants. Donc c'est quand même assez difficile, il faut être très, très vigilant. Et donc il y a une longue, longue portion de trottoir comme ça à suivre. J'ai un repère au loin, peut-être presque un kilomètre sur une grande, grande avenue, je vois quelqu'un qui court sur le trottoir et je me dis « ouf, c'est bon ». Donc j'accélère un petit peu, tout va bien, je rattrape assez vite cette personne d'ailleurs, et au fur et à mesure je me pose des questions, c'est pas possible que ce soit un coureur du 100 km, il irait plus vite, ou... et en fait oui, c'est une joggeuse qui venait son entraînement le soir, et pendant ce temps-là j'ai pas regardé s'il y avait du balisage, j'étais assez inquiet, et bon le bol c'est qu'il y avait un carrefour juste après, et il y avait des bénévoles en place qui m'ont indiqué la suite. Donc il y a des coups de chaud hein, dans des moments comme ça, parce que se retrouver dans un endroit où on ne peut pas échanger au niveau langage, on ne peut pas comprendre les signes, il n'y a que les chiffres qu'on peut comprendre, c'est assez compliqué, il ne s'agit pas de se perdre.
Tu es toujours à la cinquième place au sortir de la ville, avant d'aborder un passage dans les cultures de thé vert et des sentiers de terre. On t'informe que les deux coureurs qui te précèdent sont désormais à 10 minutes, est-ce que c'est le moment pour toi de porter les stockades finales et de donner le tout pour le tout?
Bah là en fait, je suis pas encore à cet espace plus vert, on va dire. Là, je suis encore en ville, je passe dans un à côté de temples, et là il y a un concert nocturne, il y a encore beaucoup de bruit, beaucoup d'animation. Je suis obligé de passer là-dedans. Ça se passe bien, et ensuite je retrouve le bord du lac d'Ouest. Il faut qu'on traverse le lac d'Ouest, et donc il y a 3 km sur un pont à franchir. Et quand j'arrive là, c'est donc peut-être 21 heures, c'est la nuit complète avec une foule comme on peut pas imaginer à Paris, même à Paris. C'est à tel point que si on n'est pas dans le bon sens du trottoir, on peut pas faire contresens à la foule, hein, c'est pas possible. Il y a trop de flux. Donc moi j'arrive là en me disant là c'est foutu, hein, je vais pas pouvoir trouver ma route là-dedans. Et en fait il y a quelqu'un qui m'attend avec un vélo et donc il va se mettre.
T'ouvre la voie.
Oui, il m'ouvre la voie et il est sur son vélo, donc il joue de la sonnette pour écarter la foule. Et moi je suis juste derrière lui et on avance comme ça. Donc c'est assez original. je me sens soulagé en même temps, après avoir été pendant des heures dans la nature. Être au milieu d'une foule aussi compacte, ça fait un drôle de choc. Hein. Et après, on arrive au pied donc de la traversée du Grand Lac d'Ouest. Et là, il est obligé de descendre de vélo parce qu'il n'a pas le droit d'être sur son vélo. Et du coup, il court à 12 km/h. Alors, j'essaye de ne pas aller trop vite quand même, mais il est à 12 km/h en courant avec son vélo et en jouant de la sonnette. Là, il y a beaucoup moins de monde, et les gens encouragent. C'est assez original. C'est une ambiance sympathique. Et ensuite, une fois que je suis de l'autre côté du lac d'Ouest, là, après, ça devient beaucoup plus sauvage. Là, c'est beaucoup plus agréable.
Et alors, est-ce que ton camarade courait avec son vélo à côté de toi aussi dans les cultures de thé ?
Non. Il m'a escorté jusqu'au ravitaillement. Et à partir de là, oui, je suis parti seul dans les petites collines où il y a les cultures de thé. Un endroit que j'avais vu de jour. Vraiment magnifique. C'est des collines entièrement aménagées pour, qui ont été déboisées et replantées de thé, avec des cultures en espalier. Donc, c'est des jolis murs de pierre pour faire des petites terrasses sur lesquelles sont plantées en ligne le thé. Et en suivant les courbes de la montagne, donc c'est très élégant, c'est vraiment très joli. Et donc, même de nuit, ça avait du caractère. Moi, j'aime bien regarder autour de moi et franchement, j'ai bien profité du coin.
Est-ce que tes douleurs physiques sont un lointain souvenir à ce moment-là ou est-ce que tu sens malgré tout une petite gêne encore présente ?
Là, à ce moment-là, je ne sens plus rien. Et je suis aussi pris dans l'action parce que je pense que je suis cinquième encore à ce moment-là. Et j'ai deux coureurs qui sont annoncés vraiment pas loin, à peu près à 10 minutes et doivent rester une vingtaine de kilomètres. Et voilà, je décide de tenter le tout pour le tout. C'est-à-dire que là, j'accélère, je reprends vraiment mon rythme dans la côte. Et puis, tout se passe bien. J'arrive à allonger, relancer. Et puis, je rejoins déjà un premier coureur sur le sommet. Et c'est sur le final qu'en accélérant dans les descentes techniques, où là, je peux vraiment m'exprimer, que je rejoins le troisième.
Est-ce que tu peux nous parler des tout derniers kilomètres de ta course ?
Oui, après, donc on quitte cette forêt. Bon, je connais pas du tout les lieux et je sais pas qu'on est si près de l'arrivée. Donc, arrivé en bas, il y a encore quelqu'un qui m'accompagne avec un vélo. Et je pense qu'il me reste 3 ou 4 kilomètres. Mais en fait, je me rappelle bien de cette impression de surprise. Je m'attends à avoir 3-4 kilomètres à faire et puis. Je fais 500 mètres et on fait retraverser le hall d'un immeuble et ça y est, j'arrive. Et donc, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été rétréci, la distance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'y attendais pas mais ça met un terme à cette course qui était vraiment un moment fort. Ouais.
Tu conclus ces 108 km à une inattendue troisième place compte tenu du contexte dont tu nous as parlé précédemment après 16 heures de course. Qu'est-ce que tu as ressenti donc au moment de franchir la ligne d'arrivée ? Là, c'est plutôt ce que tu évoques à l'instant, c'est-à-dire la stupéfaction de te dire « Ok, en fait, c'est maintenant la fin. » Est-ce que tu es content de finalement cette remontée, d'avoir réussi à aller au bout en dépit des pépins très marqués que tu as connus ?
Ouais, je suis à la fois surpris donc que ça se finisse brusquement, si brusquement, mais en même temps, ouais, je suis soulagé d'avoir pu reprendre l'aspect compétitif en ayant été crampé comme ça. Et c'était intéressant parce que j'ai découvert des choses aussi sur gérer cette douleur aussi, continuer. C'est une belle expérience de pouvoir rebondir après un moment difficile. Donc je suis très content d'être troisième dans ces conditions-là et surtout très content d'avoir surmonté un obstacle majeur, on va dire. C'était vraiment très très handicapant. Donc ouais, une grande satisfaction et puis je vois que ça fait plaisir aux personnes qui m'avaient accueilli. D'ailleurs, ils m'en font part, hein, ils sont surpris aussi que j'ai pu reprendre. Donc c'est un plaisir partagé et comme souvent sur les trails. On partage ces bons moments avec ses proches ou avec des amis, des rencontres.
Qu'est-ce qui a été plus particulièrement singulier pour toi sur cette course ? Qu'est-ce qui t'a vraiment étonné ? C'est justement cette foule, cette coexistence entre les passages urbains très denses et un peu perdus à pas trop savoir où aller, et puis des passages où tu t'émerveilles parce que tu vois des décors incroyables. Qu'est-ce qui a été très surprenant? Est-ce que c'est le terrain en lui-même qui est peut-être différent de ce que tu peux connaître ailleurs, ou en tout cas sur les courses que tu avais faites précédemment?
Si on peut parler du côté terrain, oui, c'est tout à fait différent de chez nous, parce que sur 6000 mètres de dénivelé positif, il doit y en avoir pas loin de 5000 sous forme d'escalier. Donc il faut s'y préparer spécifiquement, sinon c'est quand même assez compliqué pour nous, hein. Musculairement c'est dur, mais au-delà de ça, bien entendu, c'est tout ce qui est tout l'environnement qui est très changeant par rapport à chez nous. Il y a énormément d'affichage pour tout ce qui est urbanisé, beaucoup d'écritures, mais on les comprend pas, donc c'est assez joli, même c'est élégant, l'écriture chinoise, donc ça donne tout de suite une ambiance de dépaysement. Les couleurs, la foule, je pense que pour un petit séjour comme j'ai fait, c'est pas trop, ça fait un grand bain de foule, mais c'est pas trop. Par contre, je serais dans l'incapacité d'y rester 15 jours, je serais mal à l'aise assez rapidement, je pense. Mais c'est sous forme de séjour comme ça, c'est très très enrichissant.
L'analyse que tu en as tirée a posteriori sur ta défaillance, c'est donc tu l'imputes principalement au manque de sel et puis probablement au contre-coup des efforts de la Diag, et ces deux gros efforts qui sont seulement distants de 4 semaines, c'est principalement ça l'analyse que tu en fais?
Je pense que c'est un petit peu le manque d'hydratation, de sel, j'en suis pas sûr, mais d'hydratation et le terrain, quoi, les marches d'escalier répétitives, le sol dur, avec une pose de pied qui est toujours la même, plat, sur les marches, les ondes de choc en descente aussi qui tapent bien là dans les mollets, parce qu'on peut pas trop adapter sa foulée, on est contraint d'épouser les marches, hein. Donc je pense que c'est un exercice à part auquel il faut se préparer, et sans doute aussi que la diagonale des fous était un peu proche, ça a dû jouer aussi.
S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette Dasong 108? C'est difficile.
Ce serait le. Moi, il y en aurait. Il y en aurait trois, parce que deux, une, c'est compliqué à dire.
Allez, le podium.
Allez, le podium, ce serait la beauté de la crête. Là, ça, c'était vraiment chouette. On se sent seul au monde. Il y avait la culture de thé, franchement belle aussi. Et cette traversée épique où le gars était en vélo à côté de moi, au milieu de toute cette foule, courir derrière un vélo avec une sonnette à fond, c'est d'une foule mais hyper compacte, c'est vraiment rigolo, ouais. C'est original.
Merci beaucoup Antoine d'avoir partagé avec nous ta course, on va parler maintenant un peu d'avenir. Est-ce que tu as les idées claires sur tes grands rendez-vous de l'année 2022?
Ouais, voilà, je me suis fait un calendrier, on verra si on peut tout faire. Mais je pars dans 3 semaines à Cahors pour faire le Trail des Fontaines. Un 80 km nocturne. Ensuite, le 5 mars, j'irai courir le trail du bout du cirque, c'est le Seven Trail, c'est un 100 km, très très joli. Ensuite, le fameux Goulag en Grèce mi-avril, le 100 miles. Fin mai, par contre, je ne sais pas, peut-être VVX ou 100 km, c'est pas encore calé, mais une course fin mai. Ensuite, le tout début juillet ou fin juin, une autre course en Grèce, l'Ultra Mythical, enfin Olympus Mythical. C'est un 100 km avec le sommet du Mont Olympe au programme. Ensuite, donc ça c'est début, donc août, le duo des cimes avec Cédric Chavet. C'est le nouveau format de l'échappée belle. Voilà, puis il y aura le grand raid.
Ça, fin octobre, on a des chances de trouver la Réunion.
Ah oui, c'est pour la 30e.
La question se pose même plus.
Ouais, c'est la 30e édition, et ce sera ma 15e aussi. Donc ouais, un beau rendez-vous de prix.
À plus long terme, Antoine, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et que tu n'aurais pas encore réalisé? Est-ce que tu as une espèce de graal absolu, quelque chose qui t'habite depuis un certain nombre d'années que tu as envie de réaliser, ou tu n'as pas particulièrement ça?
Écoute, il y a vraiment une course que j'aimerais faire, c'est le Spartathlon. Ça me titille, mais le problème c'est que c'est la 3e semaine de septembre, et à chaque année je dis il faut que je la fasse, mais à chaque fois je me dis oui, mais je pourrais pas faire le grand raid, et pour l'instant je suis pas dans cette optique de faire l'impasse sur le grand raid, donc c'est compliqué, mais c'est vraiment une course que j'aimerais bien faire. C'est un 246 km, donc mythique, hein, sur de course sur route, donc ça j'aimerais le faire. Sinon, je vais surtout essayer de découvrir chaque année une ou deux courses différentes. comme je fais depuis pas mal d'années, donc et ils s'en créent souvent, donc j'ai quoi faire.
Sinon, tu peux écrire à l'organisation de la DIAC pour voir s'ils peuvent décaler éventuellement de quelques semaines pour faire le Spartathlon.
Non, ça peut
peut-être se négocier.
Non, ça ne devrait pas. Non, ce serait dommage. Elle est bien inscrite dans le calendrier. Elle est bien.
Imbougeable, immuable.
Oui.
Antoine, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, la citation qui incarnerait ta philosophie de vie, alors de vie ou de ta pratique sportive, en tout cas, une espèce de phrase qui a particulièrement de sens et qui te guide.
Ouais, bah depuis toujours, hein, moi c'est qui veut aller loin ménage sa monture, c'est ma façon de faire pour tout.
Merci beaucoup Antoine, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre cet ultra en Chine qui a été très dépaysant, on peut le dire, et très riche en émotions aussi. En dépit des difficultés que tu as rencontrées sur la course, on mesure à travers tes mots combien cette expérience elle a été plaisante pour toi et puis combien tu as été touché par l'accueil qui t'a été réservé à chaque instant de cette aventure, à la fois sur la course mais aussi avant et après. Bravo évidemment d'avoir trouvé les ressources mentales et physiques pour réussir à relancer cette belle machine que tu es, alors que le contexte était particulièrement défavorable et que la cause semblait être entendue. C'est très impressionnant évidemment. Il me reste à souhaiter beaucoup de bonheur pour tous les défis sportifs qui vont s'offrir à toi à l'avenir. On voit déjà que le calendrier 2022 est bien rempli et on imagine que les mois et années suivantes, ce sera du même acabit. Et puis voilà, je te souhaite aussi t'accomplir pleinement dans tous tes projets plus personnels qui t'animent au-delà de la course à pied. Ils sont là aussi très nombreux, l'écriture, ce projet de livrer en Grèce, votre maison, enfin voilà. Je te souhaite d'être heureux, quoi, tout simplement.
Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Ouais.
Merci beaucoup Antoine, à bientôt.
À bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.